je vous emmène pour terminer à l'île Maurice, et donc l'envers de la carte postale. Alors d'abord, je vais commencer par m'excuser parce que je ne vais pas respecter le titre de ma présentation et surtout, je ne vais pas faire quelque chose de vraiment intersectionnel puisque je vais m'intéresser principalement à la manière dont les rapports de race et les différenciations ethniques se produisent et se reproduisent dans les relations de services domestiques à l'île Maurice. Alors pourquoi c'est accentué sur le rapport de race? C'est quelque chose d'assez conjoncturel, puisque je viens de rentrer dans un postdoc qui s'interroge sur la racialisation au travail, donc ce qui m'a amené à en fait présenter ça pour aujourd'hui. Aussi parce que dans mes lectures récentes sur la société mauricienne contemporaine, il me semble qu'il y a une forte accentuation sur les relations interethniques, plus que sur les rapports de race. Et l'accentuation sur les relations interethniques tend à montrer des rapports de négociation et de compétition entre groupes ethniques néglige un petit peu la dimension de hiérarchie et de domination des rapports de race, ce qui est assez problématique par rapport aux relations de services domestiques dont je vais parler maintenant. La dernière chose, je pense aussi, c'est qu'en fait, je pars du rapport de race pour articuler les autres rapports sociaux, et ce qui est quelque chose, à mon avis, que je dois réfléchir, pourquoi j'utilise cette démarche, et dans ce contexte-là en particulier, donc le contexte de l'île Maurice, qui est un contexte postcolonial. Ce que je vais présenter aujourd'hui aussi, ce sont davantage des perspectives de recherche, des pistes de recherche et des questions que des résultats, puisque c'est là où j'en suis. Je démarre un postdoc, c'est la période de transition après la thèse, et donc je pars de données d'enquête issues d'un terrain exploratoire, on va dire, à l'île Maurice. Et donc, c'est plus des questions que je vais poser que des résultats. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur quelques repères historiques de l'île Maurice. Ensuite, décrire un petit peu les relations de services domestiques entre blancs et créoles que j'ai particulièrement étudiées. Pour enfin réfléchir sur les changements dans les usages de services domestiques aujourd'hui à l'île Maurice et sur les tensions dans les relations de services. Alors l'île Maurice, c'est donc une île qui a été colonisée d'abord par les Hollandais qui n'ont pas marqué la société mauricienne plus que ça. Ensuite colonisée par les Français au XVIIIe siècle, puis pour finir colonisée par les Anglais de 1815 à 1968. Durant la colonisation française se met en place le système de l'esclavage. Donc une migration forcée d'esclaves venant d'Afrique de l'Est, de Madagascar et d'Inde. La particularité de l'île Maurice, c'est que l'esclavage se met en place sans qu'il y ait une économie de plantation qui se mette en place au même moment. Et donc les esclaves vont essentiellement être utilisés pour la production domestique et la domesticité. L'économie de plantation débute à partir de la colonisation anglaise, donc à partir de 1820 à peu près. Et donc c'est finalement les travailleurs sous contrat engagés après l'esclavage, après l'abolition de l'esclavage, venus d'Inde du Nord, qui vont constituer les travailleurs des plantations et qui vont être associés à l'économie de plantation sucrière. Donc cette histoire est intéressante parce que de nombreux travaux, je pense notamment aux travaux de Sidney Mintz, l'exploitation de la force de travail des esclaves à la marchandisation de denrées et au développement capitaliste. Et c'est ici, l'association n'est pas facilement faite. Et donc, du coup, ça permet de réfléchir aux enjeux de l'exploitation des esclaves dans le service domestique et à questionner le lien avec le capitalisme. Voir si justement il n'y a pas un autre type d'exploitation qui n'est pas forcément lié au capitalisme et qui lie directement esclavage et service domestique. La deuxième chose importante dans l'histoire de la colonisation mauricienne, c'est donc la construction d'une idéologie raciste à partir de la mise en place de l'esclavage. Une idéologie raciste qui crée une opposition entre noirs et blancs, les esclaves et les maîtres, mais aussi une hiérarchie raciale à l'intérieur des esclaves qui s'appuie sur une division du travail. Et les esclaves domestiques sont, d'après les archives coloniales de l'époque, ceux qui sont les plus proches du blanc, tant par les traits physiques que par les comportements, enfin, tels qu'ils sont représentés. Donc, je cite notamment le baron d'Unienville, archiviste colonial de l'île Maurice, qui décrit les Indiens comme donc une classe remarquable, autant par la douceur de ses mœurs et par sa propreté que par sa chevelure et ses traits semblables à ceux des Européens, dont elle ne diffère que par sa couleur, variant du simple basané au noir le plus foncé. Les individus de cette classe sont de préférence employés au service domestique. À l'inverse, les Mozambiques, les hommes et les femmes de cette classe sont reconnaissables par tous les caractères qui constituent le nègre proprement dit. Grosses lèvres, nez épaté, peau huileuse, cheveux laineux, sont aussi généralement plus forts, plus laborieux, plus dociles, mais beaucoup moins intelligents que les précédents. Et cela donc plus associé au travail de l'extérieur. Et donc ça, c'est intéressant de voir comment l'idéologie raciste se construit avec la division du travail sous l'esclavage. Et la question que je me pose, c'est cette proximité et distance à la fois entre donc certains esclaves et les blancs, en quoi le service domestique est le support en fait de cette proximité, de cette distance, de cette idéologie raciste. C'est-à-dire qu'à partir de la colonisation britannique se créent trois catégories ethniques. La catégorie de population générale qui en fait associe l'ancien monde colonial français, qui réunit donc les blancs, les créoles, c'est-à-dire les esclaves récemment affranchis, et les mulâtres. Une autre catégorie est celle des Indo-Mauriciens et la dernière, celle des Sino-Mauriciens. Et comme Suzanne Chazan et Isabelle Widmer le décrivent bien, ces catégories ethniques sont associées à une position dans la division du travail et à une contribution à l'économie de plantation. Les Blancs sont associés au capital, les Indo-Mauriciens au travail, ce sont les travailleurs de la plantation, et les Sino-Mauriciens au commerce de la boutique. Comme vous pouvez le remarquer, les créoles disparaissent, sont associés dans cette catégorie de population générale aux Blancs, comme si leur ethnicité créole n'était que liée, assimilée aux Blancs dans cette hiérarchie raciale qui demeure et qui est perpétuée par cette catégorie ethnique. Et donc, leur travail, leurs occupations professionnelles, c'est comme si elles ne participaient pas à l'économie coloniale. Et donc là, ce qui m'interroge encore, c'est en quoi, si on recherche dans les archives et dans l'histoire, les occupations professionnelles de ces créoles, et notamment leur place dans les services domestiques, le fait qu'ils soient dans un travail considéré improductif, contribue à la construction de cette ethnicité créole toujours liée aux Blancs dans une hiérarchie raciale, comme si voilà, il n'apportait rien à l'économie coloniale. Alors c'est mal barré. Donc ce sont des intuitions de recherche qui sont liées à l'enquête exploratoire que j'ai menée sur les relations entre Blancs et créoles donc à l'époque contemporaine. Je suis allée dans les maisons de sept couples blancs mauriciens ou franco-mauriciens, comme on les nomme, d'une certaine génération. Ils ont plus de 50 ans. Les femmes ne travaillent plus depuis leur mariage. Et puis, donc, ce sont des familles qui emploient soit une servante, hein, c'est le terme, toute la journée, 6 jours sur 7, soit plusieurs domestiques, 3 ou 4, qui sont en part-time ou en full-time et qui font quasiment tout le travail de maison jusqu'à faire le lit, faire les valises, en plus de faire le ménage, la cuisine, le repassage, etc. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des femmes qui travaillent dans les services domestiques, ce qui n'était pas forcément le cas du temps de l'esclavage. Et puis, il y a quelques hommes qui travaillent encore comme jardiniers ou chauffeurs. Et donc j'ai rencontré aussi une dizaine de femmes créoles qui ont travaillé pendant 20 ou 30 ans pour la même famille blanche mauricienne. Voilà. Alors d'abord, la première chose, comme vous aurez pu le constater, c'est que, par la manière dont je le dis, la relation de service domestique aujourd'hui s'instaure principalement entre femmes dans le quotidien, et c'est entre femmes que s'instaure tout un code des pratiques de l'espace, des rapports entre les corps, et puis c'est entre femmes aussi que s'opère une division du travail domestique. Comme je vous l'ai dit, les domestiques font l'essentiel du travail domestique, mais on peut considérer que la patronne, en tant que gérante du travail domestique, ça fait partie d'une certaine façon du travail domestique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les patronnes, quand je les ai interrogées, insistent beaucoup plus sur la dimension de présence de la servante, le fait qu'elle soit présente, disponible, discrète, et toute cette dimension de docilité, déférence, plutôt que sur les tâches qu'elle effectue, les patronnes ne portent pas forcément de jugement sur les tâches qu'elles effectuent, mais par contre sur leur attitude servile face au patron. Donc ça, c'est une dimension importante du travail. Mais ce qui m'a intéressée aussi, c'est que bien que cette relation entre femmes soit la relation la plus fréquente dans le quotidien, il y a d'autres relations dans le service domestique, la relation des servantes aux enfants, notamment les nénaines quand elles s'occupent des enfants, et puis la relation au patron, le patron n'étant pas absent, étant souvent celui qui rémunère, qui offre des cadeaux de temps en temps, parfois qui aide à l'éducation des enfants de la servante, et voire éventuellement, il peut y avoir des rapports sexuels avec le patron qui sont mentionnés dans certains récits, où là, ça renvoie directement à l'appropriation du corps des femmes du registre du sexage. Le fait de prendre en compte l'ensemble de ces relations de service permet de monter un autre niveau de relation et considérer le rapport entre la famille servie et les servantes. Et ce rapport, dans ma thèse, je l'ai appelé de pseudo-parenté, parce que pour rendre compte du fait que les personnes que j'ai rencontrées me disaient que la servante faisait comme partie de la famille, il y avait des photographies des serviteurs, des servantes dans l'album de famille, et aussi du côté de la servante, une photographie des enfants, parfois même de la famille servie. Un attachement réciproque signifie aussi dans les entretiens, parfois des larmes parce que la patronne est décédée, ou des choses, donc toute cette dimension de l'amour qu'on a évoqué ce matin. Et donc surgissait cette dimension de l'illusion d'un lien familial en même temps que la distance entre la servante et la famille servie est maintenue dans cette relation entre femmes au quotidien par une mise à distance physique dans les pratiques de l'espace, etc. Donc, dans une première analyse de la relation de services domestiques dans les familles blanches, j'ai rapproché ce rapport de pseudo-parenté au rapport que décrit Claude Meillassou entre le maître et l'esclave. Notamment ce qu'il démontre du réapparentement fictif de l'esclave déraciné, dépersonnalisé, qui, par un réapparentement fictif, est associé, est lié au maître, et donc finalement n'existe que par ce lien au maître. Et donc je l'ai analysé dans ce rapport de pseudo-parenté, dans la continuité avec ce rapport entre le maître et l'esclave. En observant que les servantes que je rencontrais travaillaient donc dans la même famille, parfois leur mère travaillait dans la même famille, leur grand-mère, etc. Donc il y avait comme une dynastie de service, comme certains me l'ont nommé, qui s'instaurait. Certaines qui travaillaient jusqu'à 70-80 ans, et puis parfois les membres de la famille de la servante vont donner des coups de main à leur mère dans la maison et finalement servir de manière gratuite dans la maison. Et là maintenant, l'analyse que je souhaiterais développer également, c'est en quoi ce rapport entre créole et blanc dans cette relation de service domestique est productrice de normes sur le marché des services domestiques actuels. Parce qu'il faut bien préciser que les blancs aujourd'hui sont minoritaires parmi les employeurs de services domestiques, puisque la majorité des employeurs de services domestiques aujourd'hui sont des foyers, des issus des classes moyennes urbaines et de l'élite qui émerge à l'indépendance, donc appartenant à différents groupes ethniques. Et pourtant, ce rapport entre créoles et blancs demeure la norme. Ce que j'ai pu observer quand des servantes prennent les usages de services domestiques des blancs comme la référence et disqualifient les pratiques des autres employeurs qu'elles considèrent comme des mauvais imitateurs des blancs ou qu'elles dénoncent comme étant des domineurs. Je reprends là le terme créole alors que ce terme est beaucoup moins utilisé à propos des blancs. Et à partir de là, ce qui est intéressant est la manière dont se construit une hiérarchie ethno-raciale à la fois du côté des employeurs de services domestiques et des employés sur le marché de la domesticité, à partir de cette relation entre créoles et blancs. C'est-à-dire que donc les blancs sont en haut de la hiérarchie des employeurs comme étant pour ces servantes ceux qui emploient le mieux dans les meilleures conditions, etc. Et ensuite elles établissent une hiérarchie ethno-raciale des autres employeurs et du côté des femmes employées la même chose. Les femmes créoles sont considérées comme celles qui ont le plus de compétences, des compétences qui sont en plus transmise de génération en génération. Et ensuite, la hiérarchie se poursuit. Les autres femmes appartenant à d'autres groupes ethniques sont hiérarchisées de la même façon. Bon, donc ça m'amène, je vais évoquer rapidement... La dernière partie que je voulais développer, c'est les tensions dans les relations de services domestiques dans les relations d'aujourd'hui entre les nouveaux employeurs qui émergent depuis l'indépendance, donc issus de cette classe moyenne urbaine et élite, et puis des femmes pas seulement créoles et pas seulement qui ont le parcours que je viens de décrire, mais des femmes d'autres groupes ethniques et qui ont des parcours professionnels divers. Alors, je vais plutôt terminer sur les questions que je me suis posées à partir de ce nouveau panorama. Donc, aujourd'hui, les usages de services domestiques à l'île Maurice les nouveaux employeurs de services domestiques n'emploient pas du tout les servantes de la même manière que ce que je viens de vous décrire. C'est pas du tout la dimension d'attachement à la personne, de lien de parenté fictif qui domine, mais plutôt le fait de consommer des services et que ces services sont une nécessité pour les femmes qui travaillent à l'extérieur. Et ça dépend aussi du pouvoir de consommation de ces nouvelles familles employeuses. Donc la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que du fait que maintenant les employeurs, ce qui les regroupe n'est pas une appartenance raciale ou ethnique construite, mais le fait d'appartenir à une classe sociale, fait qu'on glisse d'un rapport de race à un rapport de classe, je pense que c'est plutôt une articulation, et est-ce qu'on glisse aussi d'un rapport de servitude vers un rapport salarial, hein, ce qui renvoyait un peu à la question qu'on posait. Et je ne peux pas le développer là, mais à mon avis, observer les tensions dans les relations de services domestiques, notamment les employeuses quand elles renvoient une employée ou ce que revendiquent et contestent les employés domestiques aujourd'hui, de la manière dont les patrons et les patronnes se comportent. À mon avis, c'est dans ces tensions qu'on peut observer s'il y a ce glissement ou plutôt comment s'articule ce rapport de servitude historiquement construit avec un rapport salarial dans un contexte où il y a un droit du travail qui s'est développé, etc. Je suis désolée, je n'ai pas pu développer... La fin.